Et bienvenue à cette deuxième partie de l'émission où on reçoit Julie Paquette, directrice générale de Alima, Centre de nutrition sociale périnatale. Bonjour, Mme Paquette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Grand plaisir de vous recevoir. Pour les gens là, qui ne sont pas tout à fait à jour, Alima, c'est un nom qui est quand même nouveau dans le paysage, mais qui est d'une certaine façon quand même... porte un historique qui remonte jusqu'aux années 1800. Alima, ça vient d'où déjà en partant tout ça?
Oui. Bien, en fait, je peux me permettre de faire peut-être deux petits historiques en parallèle.
Ben oui, ben oui.
Donc, Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, était jusqu'à tout récemment connu sous le nom de dispensaire diététique de Montréal. Et vous avez raison de dire que donc, notre existence remonte aux années 1800. Donc, l'organisme a été créé en 1879, donc wow. Il y a près de 145 ans. Et à la base, en fait, c'est un groupe de femmes bienveillantes qui faisaient du porte-à-porte pour distribuer des denrées alimentaires aux familles dans le besoin. Au fil du temps, les activités se sont raffinées et c'est depuis le début des années 50 que la clientèle qui est accompagnée par l'organisme est composée uniquement de femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Et donc, le mot « alima » vient de la conjoncture entre « alimentation » et « maternité » qui représente vraiment nos activités les plus importantes chez Alima et Centre de nutrition sociale périnatale, parce qu'en fait, c'est une approche qu'on a développée ici, qui met de l'avant, évidemment, l'accompagnement nutritionnel, mais auquel se greffe aussi un accompagnement par d'autres intervenantes, comme par exemple des intervenantes sociales et communautaires et des consultantes en allaitement.
OK, je comprends bien. Donc, j'aime beaucoup votre nouveau nom en passant, Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, dispensaire diététique. Là, je dois vous avouer que j'y allais des fois par déduction, mais votre nouveau nom le dit clairement bien ce que vous faites. Les gens, on s'entend, les femmes qui arrivent chez vous et qui ont besoin de vos services, j'imagine que la première condition, c'est d'être enceinte, si on part du début de l'histoire.
Oui, c'est la première caractéristique, donc être enceinte et être en situation de vulnérabilité. Plus souvent qu'autrement, ça passe par une précarité financière, ce qu'on observe malheureusement et qui se décline actuellement. Moi, je suis là depuis 2 ans, mais on le voit beaucoup au niveau d'une situation d'insécurité alimentaire, évidemment, qui est rattachée à cette précarité financière-là.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chez vous, qui cognent à vos portes, qui ont besoin de vos services, bien, qui sont monoparentales, j'imagine?
On en a qui sont monoparentales. C'est pas nécessairement 100% nécessairement de la clientèle, mais ça fait partie, oui, du profil qu'on a. On accueille aussi des femmes enceintes bon, à statut migratoire précaire, donc qui peuvent être récemment arrivées au pays. Donc aussi, on est en collaboration avec d'autres organismes sur le territoire de Montréal, donc ce qui fait qu'on peut aussi soutenir une clientèle donc qui est en situation d'itinérance, en situation de dépendance. Donc, ça fait partie aussi du profil de la clientèle qu'on accompagne chez Alima. Oui.
Je comprends. Et je voyais, quelque part dans la recherche, là, que le coût d'une saine alimentation a augmenté drastiquement, ne serait-ce qu'en octobre 2022, juillet 2023, on parlait de 8%, mais déjà, si on remonte à octobre 2021, on parle d'une augmentation de 25% là, pour une même famille, puis probablement que les chiffres... Se sont pas améliorés, disons. Le concept d'insécurité alimentaire, j'ai l'impression que tout le monde l'entend. Je ne sais pas si tout le monde le comprend. Évidemment, quand on a un loyer à payer, il y a des choses qu'on ne peut pas couper. Hein. L'électricité, si on la paye pas, il y en a plus. Si on ne paye pas notre loyer, on n'a plus de loyer. Souvent, ce qui est plus élastique, on dirait que c'est l'alimentation. Parce que ça, ben on peut acheter moins à l'épicerie. On peut manger moins. Mais le concept d'insécurité alimentaire, j'ai goût de vous entendre parce que vous êtes, oui, directrice générale d'Alima, mais vous êtes aussi nutritionniste dans votre bagage. C'est quoi l'insécurité alimentaire, je veux dire, à Montréal en 2023?
Bien, la première des choses, je pense, qui peut être importante à spécifier, c'est qu'on peut faire face à différents niveaux d'insécurité alimentaire. Donc, on peut être à un niveau qui est considéré comme étant plus faible. Donc, c'est-à-dire qu'on se trouve dans la peur de manquer d'aliments, dans la peur de pas être en mesure d'acheter ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on est à un niveau qui est considéré comme modéré d'insécurité alimentaire. Donc, c'est dans lequel on peut limiter soit la qualité ou la quantité d'aliments qui sont consommés. Et le troisième niveau, donc, qui est un peu plus alarmant, évidemment, c'est le niveau grave d'insécurité alimentaire. Et là, on ne parle pas nécessairement de réduire la qualité des aliments, mais c'est vraiment la quantité. Donc, dans le contexte, si on ramène à notre clientèle, donc chez Aliments, une clientèle enceinte, donc on sait que c'est une période qui est assez importante pour le développement de l'enfant, aussi pour la santé de la mère. Donc, évidemment, quand on se retrouve avec une clientèle qui vit de l'insécurité alimentaire grave, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est plus préoccupant. Non pas que ça ne l'est pas aux autres niveaux, mais c'est ce qu'on remarque sur le terrain, malheureusement, c'est qu'on avait peut-être des familles avant qui étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée et compte tenu des circonstances actuelles, ben se sont déplacées en situation plus grave d'insécurité alimentaire. Donc, à la base, c'est ça, c'est un manque de ressources financières qui l'apporte. Puis, comme vous le disiez, c'est qu'il y a d'autres postes budgétaires qui sont moins compressibles, appelons-le comme ça, que l'alimentation, par exemple, le logement, le transport. Donc, ça peut être ce dernier poste budgétaire-là qui écope, malheureusement.
Exactement. Puis, on a vu pendant la pandémie... des fois, des publications qui faisaient la comparaison d'aliments puis qui montraient qu'au magasin du dollar, clairement, c'était moins cher sur certains types de produits. Mais comme vous disiez, dans l'insécurité alimentaire, à un moment donné, oui, on s'alimente moins bien. Fait que peut-être qu'il y a eu du déplacement de ce côté-là. Puis à un moment donné, on s'alimente juste moins. Déjà, c'est inquiétant comme société en général. Mais je vais vous dire, pour les gens qui portent la vie, c'est encore plus inquiétant parce qu'on... On le sait, avec le temps, on n'apprend plus rien que le développement des enfants se passe parce que la mère, bien, finalement, va manger puis va amener comme nutriments au bébé pendant son développement. Donc Alima, le Centre de nutrition sociale périnatale, c'est pas une banque alimentaire, c'est pas du soutien à la grossesse comme le fait un CLSC, par exemple, ou ça se positionne où dans tout ça exactement?
Donc, Alima, c'est un centre communautaire et en fait, on a un accompagnement des femmes enceintes en situation de vulnérabilité qui normalement débute au deuxième trimestre de grossesse. Okay. Donc, dans cet accompagnement-là, on a, bon, évidemment, un suivi individuel avec une nutritionniste qui va guider, dans le fond, accompagner la maman dans le contexte de son alimentation. On va aussi fournir des bons d'achat en épicerie pour acheter des aliments nutritifs comme du lait, des œufs et des légumes surgelés. On a aussi, vous dites, on n'est pas une banque alimentaire, vous avez tout à fait raison, mais on a un petit comptoir alimentaire qui nous permet de conserver des denrées qui sont particulièrement importantes pendant la grossesse. Par exemple, des sources de protéines, du thon, du saumon, des légumineuses. Okay. Donc, on a ce type d'aliments-là qui permet de compléter l'offre. Et à cela se greffe aussi, donc on parle de nutrition sociale périnatale. Donc la nutrition, moi j'ai toujours considéré que c'était un levier qui était très, très, très puissant pour développer une relation de confiance aussi avec les gens et d'adresser d'autres enjeux aussi. Donc, c'est là où est-ce que peuvent se greffer, par exemple, des interventions avec l'équipe transdisciplinaire qu'on a, donc d'intervenantes sociales et communautaires, de consultantes en périnatalité et en allaitement. Entre autres, pour soutenir la famille dans la préparation à l'accouchement et jusqu'à ce que le bébé ait 4 mois, donc il est suivi par la maman est suivie par l'équipe d'intervention chez Alima. Et c'est vraiment, l'approche est vraiment basée sur l'expertise entre deux personnes. Donc, c'est-à-dire l'intervenante, tu sais, qui dispose de son expertise au niveau social, au niveau santé, et la maman qui dispose de sa propre expertise professionnelle et quelle est la meilleure pour, en fait, déterminer ce qui est le mieux dans son contexte. Puis ce qu'on souhaite, c'est vraiment développer le pouvoir d'agir aussi de la clientèle. Donc, une maman peut être vue, si le parcours débute au deuxième trimestre, mais elle peut être vue 14 fois par l'équipe d'intervention avant l'accouchement, puis après. Fait que c'est vraiment un accompagnement individuel qui est fait. Et oui, il y a l'aspect d'accompagnement alimentaire, le dépannage, les coupons, mais ce qu'on se fait dire aussi souvent, c'est que c'est le lien de confiance que la clientèle a été capable de construire avec l'équipe d'intervention, qui est, à mon avis, une des valorisations les plus importantes là, qu'on peut vraiment sentir au quotidien.
Ah ben certainement, parce que j'ai l'impression, puis je pense pas que vous allez me corriger là-dessus, mais corrigez-moi s'il le faut. Mais ces mamans-là qui sont en situation de précarité ne manqueront pas de jugement dans leur vie autour d'eux, probablement. Mais quand ils cognent à votre porte, elles sont certainement les bienvenues avec aucun jugement et vous les prenez comme elles sont. Et déjà qu'elles fassent cette première démarche-là, qu'elles aillent vers vous et qu'elles disent ben, « j'ai peut-être besoin d'un coup de main ou d'accompagnement ou de soutien à travers tout ça », moi, je pense que ça crée certainement un lien de confiance et ça crée un en anglais, là, le terme est un peu galvaudé, là, le « safe space », là, mais ça crée un environnement certainement là, sécurisant et réconfortant pour ces mamans-là qui ont leur vie continue, ils ont certainement un tas de préoccupations, puis en plus, ben, ils veulent s'assurer, puis ils veulent bien faire les choses pour leur bébé qui s'en vient. Moi, je trouve ça fantastique que vous offriez cet espace-là à ces mamans-là.
En fait, ça fait partie de nos valeurs chez Aliment, entre autres la bienveillance, l'équité, parce qu'ultimement, ce qu'on aimerait, c'est être capable aussi de réduire les inégalités en santé. Puis à ça aussi s'ajoute une valeur qui est le plaisir, qui pour nous est aussi importante en ce sens que oui, on peut avoir du plaisir au travail avec nos collègues, mais d'être capable d'échanger, de partager un bon moment avec la clientèle, c'est aussi important. Parce qu'elles peuvent aussi venir, oui, chercher de l'aide pour des ressources matérielles, mais il y a aussi tout le filet de sécurité qu'on est capable peut-être de mettre autour d'elle en assurant aussi le référencement vers d'autres organisations communautaires qui peuvent compléter notre offre de services. Donc, c'est notre rôle aussi. Donc, ne pas juste se dire on les voit pendant la période de grossesse puis après ça, ben bonne chance. On veut vraiment s'assurer qu'elles sont capables aussi de trouver des ressources qui sont pertinentes à leur situation et à proximité aussi. Donc, ça fait partie de notre mission.
Ouais. C'est une super mission. Si vous me le permettez, Julie Paquette, on va prendre une courte pause. On va continuer cet échange-là dans quelques instants. Grand plaisir de découvrir cet organisme-là qui s'appelle Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, que vous avez peut-être déjà connu depuis les années 1800 sous le nom du dispensaire diététique de Montréal. On continue ça dans quelques instants. Vous êtes de retour à l'émission Les héros anonymes avec Julie Paquette, directrice générale de Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, un organisme qui est, je veux dire, formidable, fantastique et très certainement nécessaire. Ce que vous le faites de façon extraordinaire pour toutes ces mamans-là et aussi pour tous ces enfants-là et par ricochet pour toutes les familles que ça vient impacter. Vos services sont offerts, est-ce qu'ils sont offerts dans certains quartiers de Montréal? C'est quoi la portée géographique de votre organisation?
En fait, on couvre l'ensemble du territoire montréalais, entre autres avec des collaborations, partenariats qu'on a mis en place avec d'autres organismes là, qui sont dans le même écosystème que nous là, en périnatalité. Donc, nous, on est basé dans l'ouest du centre-ville. Donc, évidemment, on offre des services aussi, mais dans des secteurs particuliers de Montréal. Donc, par exemple, des organismes avec lesquels on travaille, la Clinique de médecins du monde, des organismes comme la Maison Bleue, la Fondation de la visite, le programme Rond-Point, etc. qui nous permet en fait de se rapprocher aussi de la clientèle parce qu'on sait que ça peut être un enjeu. Donc, ces collaborations-là sont essentielles pour assurer l'accès aux services.
Ben oui, certainement. Puis ces mamans-là qui arrivent vers vous, comment, c'est quoi la grande porte par laquelle ils viennent cogner? Est-ce qu'ils sont référencés par d'autres organismes, par les professionnels de la santé? Elles vous découvrent à tout hasard? Comment elles savent qu'elles peuvent bénéficier de votre accompagnement?
Mais je pense que ces trois réponses-là sont bonnes. Donc, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre clientèle qui nous est référée via nos partenaires, donc issus du communautaire. On en a aussi une certaine proportion qui est référée par le réseau de la santé, donc pour différentes raisons. Et il y a aussi une partie de bouche à oreille qui peut se faire. Donc, c'est pas mal ces trois canaux-là qui sont les principaux, là.
Excellent. Et bon an, mal an, puis j'imagine qu'il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre. Il y en a combien de ces mamans-là que vous accompagnez?
L'année dernière, donc en 2022-2023, on a accompagné un peu plus que 720 mamans. Cette année, donc à la moitié de l'année, nos six premiers mois, on est déjà à 620 femmes qui ont été accompagnées ou qui le sont encore chez Alima, qui représente une augmentation de 49% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est sûr que face à cette situation-là, ben on se voit dans l'obligation, disons-le comme ça, d'augmenter notre capacité d'intervention parce qu'on n'a pas le luxe, tu sais, de dire à ces mamans-là, on va vous rappeler dans 6 mois parce qu'on a une fenêtre d'opportunité dans laquelle on peut travailler. Donc, c'est sûr que notre capacité d'intervention n'est pas infinie,
malheureusement,
mais on fait face à une hausse importante là, de la demande des services.
On voit dans beaucoup de sphères de la société, là, pour recevoir différentes organisations, organismes communautaires, qui en ce moment, dans les clientèles un peu plus, disons, vulnérables ou en situation de précarité, une surreprésentation des gens issus de l'immigration, des clientèles autochtones. Est-ce qu'on retrouve ça aussi dans votre organisation en ce moment?
Oui, je pense pas qu'on soit différent des autres organismes en ce sens-là. Donc, oui, on a quand même une partie de notre clientèle qui est issue de la diversité ethnoculturelle, donc soit d'immigration récente ou moins. On peut aussi avoir quelques clientes via nos partenaires là, donc qui sont issus de communautés autochtones. Alors oui, ça fait partie, tu sais, du profil actuellement. Bon, pour différentes raisons. Puis, ben, comme vous l'avez bien dit tantôt, nous, c'est de voir, ben, on accueille chaque cliente avec ouverture, sans jugement. Donc, ce qu'on veut, c'est les aider pour le moment dans lequel elles sont en ce moment. Mais c'est ça, je pense pas qu'on soit très différent de d'autres organismes.
Elle est la même. J'ai vu en me rendant sur votre site web qu'il y avait un beau calendrier en ligne dans lequel il y a des ateliers virtuels, puis offerts, si je ne me trompe pas, en français et en anglais également. Les ateliers virtuels, c'est un de vos outils, j'imagine, d'accompagnement pour rejoindre le plus de mamans possible?
Bien, en fait, c'est que ça permet deux choses. Ça permet à la fois d'aborder des sujets, des informations qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la clientèle. Et l'autre point, donc qui n'ont pas nécessairement besoin d'être traités en individuel, mais qui sont pertinentes peu importe à quel moment on se trouve dans le parcours. Et ben c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est le virtuel qui a pris le dessus. On n'est pas fermé à l'idée de reprendre éventuellement des ateliers en présence aussi. Puis on a déjà fait quelques essais là cet été parce que les ateliers visent aussi un objectif de partage entre les participantes. Donc, elles peuvent aussi développer un réseau. Donc, c'est pour briser l'isolement un peu que certaines peuvent vivre, puis de permettre des échanges aussi entre les participantes, ce qui n'est pas nécessairement possible en individuel.
Ben non, certainement. Et évidemment, votre organisme s'adresse à une clientèle. On a parlé, hein, ces mamans-là, vous parlez même à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Pour les papas qui nous écoutent, quel rôle ils peuvent jouer Et sur quoi vous avez le goût de les interpeller, ces papas-là qui, ou ces futurs papas-là, qui, ben, eux aussi sont peut-être dans cette situation-là de précarité, évidemment. Hein, si la maman l'est puis qu'elle n'est pas monoparentale, clairement, ça doit être commun comme situation. Mais quel rôle, comment ils peuvent faire œuvre utile, j'ai le goût de dire, dans cette situation-là?
Bien, premièrement, ils sont toujours qu'on parle d'un ou d'une partenaire, tu sais, qui accompagne la femme enceinte. Bien, ils sont toujours aussi bien accueillis, évidemment, ici que la maman. Je pense que ça fait partie aussi de l'ouverture qu'on a en ce sens que on essaye de trouver ce qui fait l'affaire aussi des deux parties. Donc, on peut suggérer au papa certaines façons de s'impliquer, que ce soit au niveau, bon, de trouver des ressources, la préparation à l'accouchement. Donc, ça, c'est un travail extraordinaire que je trouve que les intervenantes sont capables de faire. Donc, ce lien de confiance-là aussi peut se créer de fil en aiguille avec le ou la partenaire, tu sais, de la maman, ou des fois ça peut être quelqu'un de la famille aussi qui l'accompagne. Donc, de créer ce lien-là aussi avec la personne qui accompagne la maman. Donc, on n'a pas de recette préfaite pour dire ainsi, mais ça va vraiment avec ce qu'on souhaite créer comme filet autour de la maman. Et on les invite évidemment aux ateliers, donc à collaborer. Ils peuvent venir à tous les suivis aussi. Parfois, c'est eux qui peuvent passer pour chercher soit des denrées ou soit les coupons. Donc, on leur laisse la place aussi qu'ils souhaitent prendre et qu'ils sont prêts à prendre.
Oui. Parfait. Puis, il y a un bout qui fait partie de votre mission qui est d'encourager, de soutenir l'allaitement. Bon, évidemment, c'est sûr que c'est plus dur des fois pour l'autre partenaire là, d'allaiter, hein, on comprend bien. Mais ils peuvent quand même jouer un rôle à travers tout ça. Puis c'est quoi votre... parce que vous soutenez les enfants jusqu'à ce que l'enfant ait 4 mois, hein, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Donc, vous vous assurez aussi qu'il y ait une bonne nutrition dans ces premières semaines, jours, mois de vie. Puis l'allaitement, ben, je pense qu'on n'a plus personne à convaincre pour démontrer les bienfaits. Est-ce que vous avez encore beaucoup d'éducation par rapport aux bienfaits de l'allaitement? Puis en même temps aussi par rapport au fait que ben certaines mamans se sentent des fois peut-être découragées parce que ça se passe pas bien, puis qu'ils ont beau essayer, puis malheureusement, c'est pas le succès qu'ils souhaiteraient. C'est comment vous intervenez auprès de l'allaitement? Mm.
Bien, c'est sûr que ça demeure, oui, vous le mentionnez bien, il y a des bienfaits qui sont associés à l'allaitement. Par contre, on le positionne toujours aussi comme étant un choix pour la maman. Donc, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles elle n'est pas à l'aise d'allaiter ou encore qu'elle n'a pas la capacité pour le faire. Donc, ça, c'est une des premières choses. Donc, oui, c'est cette discussion-là qu'on peut avoir avec elle, mais justement d'avoir des personnes qui sont qualifiées en soutien à l'allaitement, ça nous permet vraiment d'avoir cette proximité-là et de s'assurer qu'il y a un suivi assez serré aussi qui peut être fait. Puis je dis serré pas en sens de contrôle, mais parfois, tu sais, il s'agit d'avoir la bonne consultation au bon moment pour que l'allaitement se poursuive bien. Ouais. Donc, ce qui fait que on a une consultante principale en allaitement, donc elle fait à l'occasion des visites à domicile, elle va y aller le soir. Donc, il y a cette flexibilité-là, puis l'agilité qu'on a aussi pour nous permettre d'intervenir au bon moment.
Je trouve ça extraordinaire à quel point vous naviguez, dans le fond, autour de la réalité de ces mamans-là, puis vous offrez un service, en tout cas un accompagnement qui est très certainement extrêmement adapté. Vous êtes combien de personnes bienveillantes pour ces mamans-là dans votre organisation?
Donc, l'équipe d'intervention est formée d'une douzaine d'intervenantes, donc nutritionnistes, intervenantes sociales et communautaires. Et évidemment, on a une partie de l'équipe, donc on est à peu près là, 5 ou 6 là, en communication, gestion et administration. Donc, pas tout à fait 20 employés là, chez Aliment en ce moment.
Bien, on va vous souhaiter certainement aussi de toujours pouvoir avoir le nombre d'employés nécessaires pour suivre la cadence de la demande. Ça, j'imagine que c'est la philanthropie qui est un peu une des clés à travers tout ça, non?
Exactement. C'est sûr que le financement, c'est des efforts constants à mettre, puis ce qui est un défi aussi pour des petites équipes comme les nôtres, en ce sens qu'on n'a pas une équipe qui est dédiée nécessairement au financement, à la philanthropie. Donc, faut être quand même très très agile à travers ça pour saisir les opportunités au bon moment. Mais c'est évident que le financement, c'est des discussions quotidiennes qu'on a.
Oui. Ouais, parce que je pense que, en tout cas, à moins que les chiffres là, que j'ai ne soient pas tout à fait à jour, mais il y a quand même jusqu'à 40% de votre financement qui viennent soit de dons de fondations, d'entreprises, d'associations ou d'individus. Donc, on parle quand même d'une bonne portion qui viennent de dons privés là, et non pas de financement public. C'est bien ça?
Je vous dirais que ça dépend des années.
Ouais.
Donc, il y a des années pour lesquelles on a été capable de faire, par exemple, c'est des activités bénéfices ou pour lesquelles on a bénéficié de dons assez importants. On se rappelle qu'on est quand même un organisme qui existe depuis 144 ans. Donc, il y a des gens qui ont choisi de donner à Alima au fil du temps ou de léguer ça. Mais il y a les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, malheureusement, en matière de financement autonome et privé.
Oui, clairement, les défis reviennent d'année en année. Il n'y a jamais rien de stable de ce côté-là. Et les gens qui ont la capacité financière de vous soutenir, à quoi ils peuvent s'attendre si jamais ils choisissent de faire un don à Alima? Ce don-là va se matérialiser comment?
En fait, si je parlais de l'équipe d'intervention, nous, probablement le 80-85% de nos dépenses sont vraiment dirigées vers les services qu'on a aux mamans. C'est-à-dire que c'est dédié aux ressources humaines qu'on a, donc pour assurer la prestation de services. Donc, ce que ça peut représenter, ben, c'est justement de se dire on augmente notre capacité, donc on va être possiblement capable de voir si on a une ressource supplémentaire en intervention, bien, ça peut représenter entre 75 et 100 mamans supplémentaires qui vont être vues dans une année. Ceci dit, tous les dons peuvent être appréciés, peuvent servir. Donc, oui, c'est possible de donner via notre site Internet, donc centrealima.ca. On a parfois aussi des individus qui viennent nous porter des denrées, donc pour notre dépanneur alimentaire. On a des gens, des fois, qui organisent des activités pour nous, par exemple, pour ramasser des couches, des aliments. Donc, des entreprises aussi, parfois, qui viennent faire des journées d'entraide, donc du bénévolat d'affaires. Donc, il y a quand même toutes sortes de façons de s'impliquer auprès des organisations communautaires. Il s'agit juste d'être créatif un peu, puis de voir comment est-ce qu'on souhaite s'investir.
Et l'appel est lancé. Ouais. Merci beaucoup, Julie Paquette. Désolée, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Ça a filé super vite. Julie Paquette, directrice générale de Alima, Centre de nutrition sociale et périnatale. C'était un très, très grand plaisir.